VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel, 13h à Bujumbura. Bonjour à tous. Le dialogue inter-burundais dans l'impasse, les pourparlers visant à dénouer la grave crise que traverse le pays ne reprendront pas à Arusha en Tanzanie comme prévu aujourd'hui. Le gouvernement affirme que la date du 6 janvier n'a pas été consensuelle et que par conséquent, il ne sera pas représenté à Arusha. On écoute Jankwa Beko, proche du CNDD, le parti au pouvoir au Burundi.
L'organisation n'est pas bonne, n'est pas claire. Il n'y a pas de date fixe pour entamer le dialogue à Arusha. Il n'y a pas de préparation. Même la logistique n'a pas été organisée. C'est pourquoi toutes les parties prenantes au dialogue ne vont pas participer. Même le facilitateur, son excellence Yoweri Museveni, ne va pas se rendre à Arusha. Parce que lui-même sait que la date n'a pas été consensuelle.
L'opposition a indiqué que les discussions ne pouvaient pas concrètement reprendre ce mercredi, disant n'avoir aucune information sur une nouvelle date. Tassien Siwomana du parti Uprona dit ne pas être surpris par le retrait du gouvernement.
On avait déjà senti la chose venir. Maintenant que c'est officiel, nous déplorons bien sûr la démarche du gouvernement de facto de Bujumbura, qui ne nous surprend pas d'ailleurs parce qu'il n'a nullement pas affiché la volonté de négocier. Seulement, nous lançons un appel vibrant à la médiation parce que maintenant, il ne faut pas que la médiation se comporte comme si elle doit programmer les dates sur injonction du gouvernement parce que le gouvernement est une des parties en conflit. D'ailleurs, c'est la cause de tous les maux qui s'écoulent au Burundi. Donc la médiation doit prendre la chose au sérieux et considérer que tout jour qui passe est un jour de plus de malheur pour les Burundais et parce que les gens continuent à mourir, les gens continuent à être enlevés, les gens continuent à être torturés, à être emprisonnés sans aucune raison valable.
Tassien Siwomana de l'Uprona, propos recueillis à Bujumbura par Christophe Ngurunziza. En République centrafricaine, les réactions se multiplient au lendemain de la contestation des résultats provisoires des élections groupées du 30 décembre par une vingtaine de candidats à la présidentielle. Parlement et gouvernement de transition appellent les contestataires au respect des voies officielles du recours. Par ailleurs, l'ANE, l'Autorité nationale des élections, poursuit la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Freeman Sepila nous appelle de Bangui.
Au cours d'une conférence de presse ce mardi à Bangui, le ministre de l'administration du territoire, Modibo Bachir Walidou, a indiqué qu'il est inadmissible de remettre en cause les résultats de ces scrutins jugés crédibles par tous les observateurs nationaux et internationaux. Il reproche aux candidats le fait de ne pas envoyer leurs représentants assister aux étapes des élections depuis les bureaux de vote jusqu'à la Cour constitutionnelle de transition en passant par l'Autorité nationale des élections. Au cours d'une entrevue dans la matinée avec une partie des candidats contestataires et deux des favoris, le président du Parlement provisoire, Alexandre Ferdinand Guindy, a demandé aux différentes parties prenantes d'éviter de perturber le processus en cours, mais de porter leur requête devant la Cour constitutionnelle de transition. Entre-temps, l'Autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats partiels et provisoires. Ce mardi soir, 53% des résultats globaux ont été rendus publics. Anissé Georges Doluguilé prend le dessus avec 179 236 voix contre 178 483 voix obtenues par Faustin Archange Touadéra à la tête il y a encore quelques heures. Progression également de Martin Ziguele qui réoccupe la quatrième place avec 70 883 voix derrière Désiré Bilal Zanga Kolingba, troisième avec 76 109 voix. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'ONU envisage de réduire encore ses effectifs en République démocratique du Congo. Cette proposition motivée par les progrès réalisés dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'est du pays sera discutée la semaine prochaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nani Talani.
C'est la deuxième fois en deux ans que l'ONU va réduire ses effectifs en RDC. Cette fois, 17 000 casques bleus vont quitter le territoire congolais compte tenu des progrès accomplis dans l'élaboration d'une stratégie conjointe de sortie et la réduction de la menace que constituent les groupes armés. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, estime que cette réduction ne compromet pas la capacité de la MONUSCO de s'acquitter de son mandat de protéger les civils, notamment par la neutralisation des groupes armés. Ces réductions sur le terrain ne changent pas le plafond des effectifs fixé à 21 000 soldats et policiers, si bien que l'ONU peut réaugmenter ses effectifs en cas de besoin. Ban Ki-moon propose aussi de réorienter davantage la MONUSCO vers des tâches de police dans la perspective des élections de novembre prochain. Il se dit profondément troublé par la montée des tensions politiques dans le contexte du processus électoral, par l'augmentation du nombre d'incidents en matière de sécurité et par les violations des droits de l'homme qui risquent de déboucher sur des troubles civils et des violences généralisées. Par conséquent, Ban Ki-moon encourage le président Joseph Kabila à engager un dialogue national visant à instaurer un consensus sur le processus électoral en cours.
11h05 à Bamako.
VOA Afrique en direct de Washington.
175 Maliens expulsés du Gabon sont arrivés à Bamako hier. Selon leur premier témoignage, certains d'entre eux étaient en prison où ils disent avoir été maltraités par les autorités gabonaises. Il leur a fallu 2 semaines de route pour arriver à Bamako. Kassim Traoré.
Les 175 Maliens expulsés du Gabon sont revenus les mains vides. Ils sont partis de Libreville à Bamako en passant par Calabar au Nigeria, Cotonou au Bénin et Ouagadougou au Burkina Faso. Le problème principal semble être la non-détention de la carte de séjour.
Je m'appelle Keita Mohamed Sekou. Oh, la carte de séjour, je crois, c'est dans les 800 000 comme ça.
820 000.
Non, pas les moyens pour prendre ça. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui dire d'enlever la chemise et la ceinture, les chaussures. Comme déjà il est pris comme prisonnier, on les maltraite. Il voit 4 personnes sur un lit d'une place. C'était pas dans de bonnes conditions.
Parmi les 175 Maliens expulsés, tous n'ont pas le même problème, comme nous l'explique Bala Bagayogo, qui a passé un an en détention.
De un d'abord, moi je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai passé toute mon existence au Gabon. Je suis parmi eux parce que j'avais les papiers gabonais. On m'a arrêté, soi-disant que c'est faux usage de faux. On me donne un mandat de dépôt sur le dos. J'ai ma famille là-bas, mon père au Gabon, ma mère au Gabon, mes petits.
Dès leur arrivée, des dispositions ont été prises par la protection civile afin de faciliter leur prise en charge. Comme ces 175 Maliens refoulés de Libreville, d'autres Maliens sont encore dans les prisons gabonaises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a dénoncé mardi un accroissement de la répression contre l'opposition à Djibouti. Elle réclame une commission d'enquête pour éclaircir les circonstances du massacre du 21 décembre qui a fait, selon elle, 27 morts. Florent Gel est le responsable du Bureau Afrique de la FIDH.
Le président Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête de l'État depuis 16 ans, veut un quatrième mandat et veut passer en force. Et le dialogue politique qui avait été noué avec un accord cadre le 30 décembre 2014 est aujourd'hui lettre morte. Et le pouvoir veut réprimer son opposition pour être seul en lice pour l'élection présidentielle. On demande un processus électoral crédible, pluraliste et transparent qui permettent aux partis de la majorité présidentielle et aux partis de l'opposition de concourir dans les mêmes règles et que chacun ait la possibilité de gagner. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Djibouti dans les élections précédentes.
Florent Gel, responsable du Bureau Afrique de la FIDH. Le Conseil de sécurité de l'ONU convoqué aujourd'hui pour une réunion d'urgence à New York à propos de l'annonce par Pyongyang d'un nouvel essai nucléaire nord-coréen, selon des diplomates. La réunion a été demandée par les États-Unis et le Japon et elle va prendre la forme de consultation à huis clos entre les 15 pays membres, a précisé à l'AFP la porte-parole de la mission américaine auprès de l'ONU. La Corée du Nord a annoncé aujourd'hui avoir mené un 4e essai nucléaire, le premier avec une bombe à hydrogène. L'accès principal à la chancellerie allemande à Berlin a été fermé ce matin. La police fédérale allemande a évoqué à l'AFP un envoi postal suspect. Les policiers sur place attendent l'arrivée des spécialiste chargé d'examiner le courrier et clarifier la situation sur les lieux. L'accès à la chancellerie était toutefois toujours accessible via d'autres accès annexes et le travail s'y poursuivait. Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA, a déjà relevé de ses fonctions à la moitié du mois de septembre en raison du scandale de corruption au sein de l'instance suprême du football mondial, voire sa suspension provisoire de toute activité liée au football prolongé de 45 jours, a indiqué aujourd'hui la justice interne de la FIFA. Le Français, âgé de 55 ans, est accusé par la presse anglaise d'être impliqué dans une affaire de revente de billets au marché noir lors du Mondial 2014 au Brésil. 9 ans de suspension ont été requis mardi par la justice interne de la FIFA contre Valk, dont la suspension provisoire initiale de 90 jours dans l'attente du verdict final avait expiré hier soir à minuit. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal, Henri Francisque, c'est dans 50 minutes. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.